Un jour, il a neigé pendant 10 jours sans interruption. Vous êtes dans votre cabane avec vos livres, avec vos romans et votre fenêtre et le thé qui fume. Et là, tout d'un coup, vous êtes quand même saisi par un sentiment de vertige, du néant. C'était une expérience de plongée en moi-même. Donc, c'est dire, c'était une expérience de vide et de néant. Mais tout à coup, j'ai été saisi par l'angoisse. Mais ce qui est agréable avec la cabane, c'est que vous êtes obligé de réagir très vite, puisqu'il faut de toute façon couper votre bois, nourrir votre chien, trop pêcher votre poisson. Donc, les contingences elles-mêmes de la vie vous obligent à ne pas trop vite désespérer. Du coup, pour ça, je voulais essayer de faire un texte autour de ces thèmes magnifiques que sont la tentation du recours aux forêts, qui est d'ailleurs une solution de facilité. Quand vous dites que c'est tellement difficile de vivre dans la société, que finalement l'ermite, lui, se dit « moi j'ai trouvé une solution ».
Bonjour à tous et à toutes, et bienvenue dans votre émission de lecture à voix haute, Les yeux ont des oreilles. Je suis ravie de vous retrouver après des vacances bien trop longues, et je vous promets une très belle saison pour cette émission, car en cette rentrée, de nouvelles voix m'accompagnent sur Transistor. Je salue donc Maë, Valentin et Laura pour ce numéro consacré à la nature en littérature. Vous avez peut-être déjà reconnu la voix de Sylvain Tesson que nous entendions à l'instant, lorsqu'il racontait sur Europe 1 en 2010 les 6 mois passés seuls dans une cabane au fond de la Sibérie. J'espère que vous êtes donc rassurés. La nature que nous évoquerons ici n'est pas celle des romantiques ou des promeneurs éplorés, mais bien celle des poètes avides de contempler et de comprendre, celle des écrivains heureux d'écrire la beauté et la richesse du monde qui les entoure. Voici pour commencer un poème en prose de Francis Ponge, issu de son recueil « Le parti pris des choses ». Dans cette œuvre, publiée en 1942, Ponge nous propose une redécouverte ludique de notre environnement quotidien. Dans Faune et Flore, il nous propose de considérer la nature à travers l'expression de la dualité être animé et être non animé. C'est pourtant la flore qui est largement mise en avant. Le poète nous transmet une fascination pour les stratégies de déploiement et d'extension de ces êtres privés de mouvement et de vitesse. L'évocation de cette contrainte à l'immobilité renforce l'admiration pour la tentative de fuite des végétaux par la croissance et la ramification.
Faune et flore. La faune bouge, tandis que la flore se déplie à l'œil. Toute une sorte d'être animé et directement assumé par le sol. Ils ont au monde leur place assurée, ainsi qu'à l'ancienneté leur décoration. Différents en ceci de leurs frères vagabonds, ils ne sont pas surajoutés au monde, importuns au sol. Ils n'errent pas à la recherche d'un endroit pour leur mort, si la terre, comme des autres, absorbe soigneusement leur reste. Chez eux, pas de soucis alimentaires ou domiciliaires, pas d'entre-dévoration. Pas de terreur, de course folle, de cruauté, de plainte, de cris, de paroles. Ils ne sont pas les corps seconds de l'agitation, de la fièvre et du meurtre. Dès leur apparition au jour, ils ont pignon sur rue ou sur route. Sans aucun souci de leurs voisins, ils ne rentrent pas les uns dans les autres par voie d'absorption. Ils ne sortent pas les uns des autres par gestation. Ils meurent par dessiccation et chute au sol, ou plutôt affaissement sur place, rarement par corruption. Aucun endroit de leur corps particulièrement sensible au point que percé, ils causent la mort de toute la personne. Mais une sensibilité relativement plus chatouilleuse au climat, aux conditions d'existence. Ils ne sont pas... Leur enfer est d'une autre sorte. Ils n'ont pas de voix. Ils sont à peu de choses près paralytiques. Ils ne peuvent attirer l'attention que par leur pose. Ils n'ont pas l'air de connaître les douleurs de la non-justification, mais ils ne pourraient en aucune façon échapper par la fuite à cette hantise ou croire y échapper dans la griserie de la vitesse. Il n'y a pas d'autre mouvement en eux que l'extension. Aucun geste, aucune pensée, peut-être aucun désir, aucune intention qui n'aboutisse à un monstrueux accroissement de leur corps, à une irrémédiable excroissance. Ou plutôt, et c'est bien pire, rien de monstrueux par malheur. Malgré tous leurs efforts pour s'exprimer, ils ne parviennent jamais qu'à répéter 1 million de fois la même expression, la même feuille. Au printemps, lorsque, las de se contraindre et n'y tenant plus, ils laissent échapper un flot, un vomissement de vers, et croient entonner un cantique varié, sortir d'eux-mêmes, s'étendre à toute la nature, l'embrasser. Ils ne réussissent encore que, à des milliers d'exemplaires, la même note, le même mot, la même feuille. L'on ne peut sortir de l'arbre par des moyens d'arbre. Ils ne s'expriment que par leur pose. Pas de gestes. Ils multiplient seulement leurs bras, leurs mains, leurs doigts, à la façon des Bouddhas. C'est ainsi qu'oisifs, ils vont jusqu'au bout de leur pensée. Ils ne sont qu'une volonté d'expression. Ils n'ont rien de caché pour eux-mêmes. Ils ne peuvent garder aucune idée secrète. Ils se déploient entièrement, honnêtement, sans restriction. Oisifs, ils laissent passer leur temps à compliquer leur propre forme, à parfaire dans le sens de la plus grande complication d'analyse leur propre corps. Où qu'ils naissent, si cachés qu'ils soient, ils ne s'occupent qu'à accomplir leur expression. Ils se préparent, ils s'ornent, ils attendent qu'on vienne les lire. Ils n'ont à leur disposition pour attirer l'attention sur eux que leur pose, que des lignes, et parfois un signal exceptionnel, un extraordinaire appel aux yeux et à l'odorat sous forme d'ampoules ou de bombes lumineuses et parfumées, qu'on appelle leurs fleurs, et qui sont sans doute des plaies. Cette modification de la sempiternelle feuille signifie certainement quelque chose. Le temps des végétaux. Ils semblent toujours figés, immobiles. On tourne le dos pendant quelques jours, une semaine, leur peau s'est encore précisée, leurs membres multipliés. Leur identité ne fait pas de doute, mais leur forme s'est de mieux en mieux réalisée. La beauté des fleurs qui fanent. Les pétales se tordent comme sous l'action du feu. C'est bien cela, d'ailleurs, une déshydratation. Se tordent pour laisser apercevoir les graines à qui ils décident de donner leur chance, le champ libre. C'est alors que la nature se présente face à la fleur, la force à s'ouvrir, à s'écarter. Elle se crispe, se tord, elle recule et laisse triompher la graine qui sort d'elle, qui l'avait préparée. Parmi les êtres animés, on peut distinguer ceux dans lesquels, outre le mouvement qui les fait grandir, agit une force par laquelle ils peuvent remuer tout ou partie de leur corps et se déplacer à leur manière par le monde. Et ceux dans lesquels il n'y a pas d'autre mouvement que l'extension. Une fois libérés de l'obligation de grandir, les premiers s'expriment de plusieurs façons à propos de 1000 soucis de logement, de nourriture, de défense, de certains jeux, enfin lorsqu'un certain repos leur est accordé. Les seconds, qui ne connaissent pas ces besoins pressants. L'on ne peut affirmer qu'il n'ait pas d'autres intentions ou volontés que de s'accroître, mais en tout cas toute volonté d'expression de leur part est impuissante, sinon à développer leur corps, comme si chacun de nos désirs nous coûtait l'obligation désormais de nourrir et de supporter un membre supplémentaire. Infernale multiplication de substances à l'occasion de chaque idée. Chaque désir de fuite m'alourdit d'un nouveau chaînon. Le végétal est une analyse en acte, une dialectique originale dans l'espace. Progression par division de l'acte précédent. L'expression des animaux est orale ou mimée par gestes qui s'effacent les uns les autres. L'expression des végétaux est écrite une fois pour toutes. Pas moyen d'y revenir. Repentirs impossibles. Pour se corriger, il faut ajouter. Corriger un texte écrit et paru par des appendices et ainsi de suite. Mais s'il faut ajouter qu'il ne se divise pas à l'infini, il existe à chacun une borne. Chacun de leurs gestes laisse non pas seulement une trace comme il en est de l'homme et de ses écrits, il laisse une présence, une naissance irrémédiable et non détachée d'eux. Thank you. Lorsqu'on a dit nature à Maë, elle a pensé à Sylvain Tesson, à ses descriptions de la Sibérie, du lac Baïkal et de la taïga, à ses récits de voyage dans des contrées lointaines, sauvages et merveilleuses. Et puis elle a changé d'avis. Parce que Sylvain Tesson, dans son dernier roman « Sur les chemins noirs », nous parle d'une nature tout aussi sauvage et un peu oubliée, celle des terres délaissées, de l'Hexagone. C'est une ode au retour vers la nature contre une société moderne étouffante que l'écrivain voyageur, qui parcourt alors les chemins noirs de la France, tisse pour nous au fil de son roman.
Pendant 2 jours, nous passâmes par des causses sur lesquelles des ruines à faire pitié, à faire envie peut-être, balisaient le chemin. Nous avancions légers, sans nous préoccuper de rien que de trouver le chemin et soucieux d'y goûter les fruits offerts au regard. Un noisetier, le vol d'un grèbe, une grange de pierres sèches. Nous nous contentions de cela, nous nous extirpions du dispositif. Le dispositif était la somme des héritages comportementaux, des sollicitations sociales, des influences politiques, des contraintes économiques qui déterminaient nos destins sans se faire remarquer. Le dispositif disposait de nous. Il nous imposait une conduite à tenir insidieusement, sournoisement, sans même que l'on s'aperçût de l'augmentation de son pouvoir. Il existait un petit ver, la douve, qui infectait les fourmis et contrôlait leurs mouvements, pour les contraindre à l'immobilité sur un brin d'herbe afin qu'elles s'offrent en pâture aux herbivores, qui devenaient alors les nouveaux hôtes du parasite. La douve était le dispositif de la fourmi. Les puces au silicium étaient nos propres douves. Chacun de nous portait son parasite, de son plein gré, sous la forme d'un de ces processeurs technologiques qui régulaient nos vies. Les papous se transmettaient une vision du monde où le domaine des esprits se mêlait à la réalité. C'était leur dispositif. Le nôtre pourvoyait à notre confort, notre santé et notre opulence alimentaire, mais nous inoculait son discours et nous tenait à l'œil. Nous recevions ses informations, sa publicité, nous répondions à ses injonctions, il nous accablait de ses sommations diluées dans le brouhaha. Le discours du dispositif était un dispositif. Sur les chemins noirs, nous nous enfoncions dans le silence, nous quittions le dispositif. La première forêt venue proposait une cache. Les nouvelles y étaient charmantes, presque indétectables, difficiles à moissonner. Une effraie avait fait un nid dans la charpente d'un moulin. Un faucon faisait feu sur le quartier général d'un rongeur. Un orvet dansait entre les racines. Des choses comme cela, elles avaient leur importance. Elles étaient négligées par le dispositif. dans sa dédicace à l'ouvrage Pierre, au pluriel, publié en 1966, le poète et écrivain Roger Caillois nous parle des pierres. Avec une certaine économie efficace de parole, il nous parle des pierres elles-mêmes, pour ce qu'elles sont, sans artifice. Les pierres dont Caillois nous parle, elles sont au naturel. Elles sont là. Caillois nous parle des pierres, respectueusement, avec soin, en toute humilité. Caillois nous parle de pierres.
Je parle de pierres qui ont toujours couché dehors ou qui dorment dans leur gîte et la nuit des filons. Elles n'intéressent ni l'archéologue, ni l'artiste, ni le diamantaire. Personne n'en fit des palais, des statues, des bijoux, ou des digues, des remparts, des tombeaux. Elles ne sont ni utiles, ni renommées. Leurs facettes ne brillent sur aucun anneau, sur aucun diadème. Elles ne publient pas, gravées en caractères ineffables, des listes de victoires, des lois d'empire. Ni bornes, ni stèles, pourtant exposées aux intempéries, mais sans honneur ni révérence, elles n'attestent qu'elles. L'architecture, la sculpture, la glyptique, la mosaïque, la joaillerie n'en ont rien fait. Elles sont du début de la planète, parfois venues d'une autre étoile. Elles portent alors sur elles la torsion de l'espace comme le stigmate de leur terrible chute. Elles sont d'avant l'homme, et l'homme, quand il est venu, ne les a pas marquées de l'empreinte de son art ou de son industrie. Il ne les a pas manufacturées, les destinant à quel usage trivial, luxueux ou historique. Elles ne perpétuent que leur propre mémoire. Elles ne sont taillées à l'effigie de personne, ni homme, ni bête, ni fable. Elles n'ont connu d'outils que ceux qui servaient à les révéler. Le marteau à cliver pour manifester leur géométrie latente, la meule à polir pour montrer leurs grains ou pour réveiller leurs couleurs éteintes. Elles sont demeurées ce qu'elles étaient, parfois plus fraîches et plus lisibles, mais toujours dans leur vérité. Elles-mêmes et rien d'autre. Je parle des pierres que rien n'altéra jamais, que la violence des sévices tectoniques et la lente usure qui commença avec le temps, avec elles. Je parle des gemmes avant la taille, des pépites avant la fonte, du gel profond des cristaux avant l'intervention du lapidaire. Je parle des pierres, algèbre, vertige et ordre, des pierres, hymnes et quinconces, des pierres, dards et corolles, orées du songe, fermantes et images, de telles pierres pans de chevelures opaques et raides comme mèches de noyer, mais qui ne ruisselle sur aucune tempe, là où dans un canal bleu devient plus visible et plus vulnérable une sève. De telles pierres, papiers défroissés, incombustibles et saupoudrés d'étincelles incertaines, ou vase le plus étanche, ou danse et prend encore son niveau derrière les seules parois absolues, un liquide devant l'eau, et qu'il fallut pour préserver un cumul de miracles. Je parle de pierres plus âgées que la vie, et qui demeurent après elle sur les planètes refroidies, quand elle eut la fortune d'y éclore. Je parle des pierres qui n'ont même pas à attendre la mort, et qui n'ont rien à faire que laisser glisser sur leur surface le sable, l'averse ou le ressac, la tempête, le temps. L'homme leur envie la durée, la dureté, l'intransigeance et l'éclat, d'être lisse et impénétrable, et entière, même brisée. Elles sont le feu et l'eau dans la même transparence immortelle, visitées parfois de l'iris et parfois d'une buée. Elles lui apportent, qui tiennent dans sa paume, la pureté, le froid et la distance des astres, plusieurs sérénités. Comme qui, parlant des fleurs, laisserait de côté aussi bien la botanique que l'art des jardins et celui des bouquets, et il lui resterait encore beaucoup à dire, ainsi à mon tour, négligeant la minéralogie, écartant les arts qui des pierres font usage, je parle des pierres nues, fascination et gloire, où se dissimule et en même temps se livre un mystère plus lent, plus vaste et plus grave que le destin d'une espèce passagère. A winter's day in a deep and dark December, I am alone, gazing from my window to the streets below, on a freshly fallen silent shroud of snow. I am a rock, I am an ark.
friendship. Friendship causes pain. It's laughter and it's loving I disdain. I am a rock. I am an island. Don't talk of love.
En 1995, Yves Bonnefoy publie Ce qui fut sans lumière. Dans ce texte, le poète, qui a alors une soixantaine d'années, se plonge dans ses souvenirs d'enfance. Il se souvient de la maison qu'il a vue grandir, de la terre, du chemin, des pierres, des arbres. Sa poésie tente de capter l'indéfinissable beauté de la nature. Eva nous lit le poème « Les arbres ».
Nous regardions nos arbres. C'était du haut de la terrasse qui nous fut chère. Le soleil se tenant près de nous, cette fois encore, mais en retrait, hôte silencieux au seuil de la maison en ruine, que nous laissions à son pouvoir, immense, illuminé. Vois, te disais-je, il fait glisser contre la pierre, inégale, incompréhensible, de notre appui l'ombre de nos épaules confondues, celle des amandiers qui sont près de nous, et celle même du haut des murs qui se mêlent aux autres, troués, barques brûlées, proues qui dérivent, comme un surcroît de rêve ou de fumée. Mais ces chaînes là-bas sont immobiles, même leur ombre ne bouge pas, dans la lumière. Ce sont les rives du temps qui coulent ici où nous sommes, et leur sol est inabordable, tant est rapide le courant de l'espoir gros de la mort. Nous regardâmes les arbres toute une heure. Le soleil attendait, parmi les pierres, puis il eut compassion, il étendit vers eux, en contrebas dans le ravin, nos ombres, qui parurent les atteindre, comme, avançant le bras, on peut toucher, parfois, dans la distance entre deux êtres, un instant du rêve de l'autre qui va sans fin.
Si tu es né dans une cité HLM, je te dédicace ce poème en espérant qu'au fond de tes yeux ternes, tu puisses y voir un petit brin d'herbe. Et les mâles vont faire la part des choses. Il est grand temps de faire une pause, de troquer cette vie morose contre le parfum d'une rose. C'est l'hymne de nos campagnes, de nos rivières, de nos montagnes, de la vie manne, du monde animal. Crie-le bien fort, use tes cordes vocales. Pas de boulot,
pas de diplôme,
partout la même
odeur de zone. Plus rien n'agite tes neurones,
pas même le shit que tu mets dans tes cônes. Va voir ailleurs,
rien ne te retient.
Va vite,
perds quelque chose de tes mains.
Ne te retourne pas,
ici tu n'as rien.
Et sois le premier à chanter ce refrain. C'est l'hymne de nos campagnes, de nos rivières, de nos montagnes, de la vie manne, du monde animal. Crie-le bien fort, use tes cordes vocales.
Assieds-toi
près d'une rivière,
écoute le coulis de l'eau
sur ma terre. Dis-toi qu'au bout, il y a la mer,
et que ça n'a rien d'éphémère.
Tu comprendras alors que tu n'es rien comme celui avant toi, comme celui qui vient, que le liquide qui coule dans tes mains
te servira à vivre jusqu'à demain matin.
C'est l'hymne de nos campagnes, de nos rivières, de nos montagnes, de la vie manne, du monde animal. Crie-le bien fort, use tes cordes vocales.
Merci chers auditeurs de nous avoir écoutés. Merci à Valentin, Maë et Laura pour leur très belle lecture et à Rémi pour la régie. Pour les musiques, nous avions un extrait de Jeux d'eau de Ravel, un extrait de Baïkal d'Ibrahim Maalouf, qui est la bande originale du film Dans les forêts de Sibérie, un extrait de I Am a Rock de Simon & Garfunkel, et enfin un extrait de L'hymne de nos campagnes de Trio. Rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode des Yeux ont des oreilles.